On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Alors c'est assez rigolo parce que ça commence au siècle dernier. Tu commences pas du tout dans la chanson. Tu commences régisseur avec Éric Barbier pour le film Le Brasier. Tu commences d'abord un premier groupe avec Patchol et Barnabé. Il faut que tu nous expliques. Le Barnabé, ça devient Benabar. L'auditeur qui ne comprend rien du tout parce qu'en fait il sait pertinemment que tu t'appelles Bruno se dit bon bref, le Benabar vient de Barnabé. C'est quoi le Beans?
Alors c'est avec Patchol qui est venu habiter chez moi. Il devait rester une semaine, il restait 6 mois.
Ouais. Un copain
de mon grand frère.
D'accord.
À l'origine,
okay.
Et qui était musicien et qui voulait chanter. Et donc j'ai commencé à lui écrire des textes parce que moi je voulais être auteur à l'époque, scénariste, c'était vraiment ce qui m'animait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à un peu jouer du piano, etc. etc. Puis on a commencé à jouer tous les deux dans les bistrots en bas de chez nous, dans le 11e on était. Et puis je voulais des, il y avait un côté très chansonnier on discutait tous les deux des chansons sketch et tout ça, donc je voulais des noms de clowns. Uh-huh. Donc j'ai inventé Patchol et Barnabé, puis comme il parlait verlan, il m'a baptisé Benabar et c'est resté.
Alors après tu continues, mais ça ne vient pas du tout tout de suite la chanson, puisque tu es scénariste toujours. Alors là c'est dans les années 98, on était champion de France en football, je te le rappelle, champion du monde également, surtout scénariste de la série H. Ça, H, c'est quand même un vecteur assez étonnant pour nous, Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, et toi tu es auteur dans la série.
Ouais, avec plusieurs auteurs, notamment Eric Laven, à qui j'ai tourné après. On a participé aux 4 saisons, oui. Il y a eu plusieurs auteurs, mais il y avait un groupe très soudé d'auteurs de base dont je faisais partie.
Mais comment tu es arrivé là-dedans?
Par mon copain Jean-Paul Batani, scénariste, qui m'a branché. Puis en fait, ça l'a fait. Alors, je me suis fait virer le premier jour.
Ah.
Je m'étais engueulé avec le producteur.
Une raison particulière? Question de contrat?
Non, même pas. Le ton était monté. Et puis j'étais un peu plus jeune et un peu. Et puis lui aussi était assez
vif.
Assez vif.
Ouais.
Donc je me suis fait virer. Puis après ils m'ont rappelé parce que c'est les textes étaient leur convenaient.
D'accord. Alors tu continues et c'est là où il y a une page qui se tourne totalement. Ça y est, on est en 2001 et on se souhaite un bon anniversaire.
Et le temps passe d'hier en demain. Ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais les pompiers, au regard.
Parce que là, on est quand même sur un registre de 2001 où il y a une fille en plus qui habite chez toi, bizarrement. C'est ça. Eh ouais. J'adore ce côté « Vas-y, chauffe Marcel » à l'époque de Jacques Brel, parce qu'on est quand même « Vas-y, chauffe Marcel ».
Ah ouais, moi j'adore ça, j'adore les fanfares, j'adore ce côté aussi farouchement divertissement de la musique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir quelques ambitions artistiques ou poétiques,
ça n'empêche pas
mais l'idée de divertir, de faire du divertissement, du spectacle, avec le côté clown, tout ce qu'on
veut. Et côté champêtre aussi.
Exactement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je crois, qui m'intéresse artistiquement en fait. Et encore une fois, quand on s'interroge à plein de trucs, bah tu vois, ça a cartonné le film autour de Dumas, Alexandre Dumas, c'était du divertissement. Il faisait Chaplin, c'était du divertissement, donc c'est pas du tout incompatible.
Mais alors on continue. Ce siècle ouvre les portes, bien sûr, en referme d'autres. Scénariste de la série La Famille Quentin, Les Risques du Métier, tu y arrives, et puis d'un seul coup, tu chantes. Là, c'est quand même après le monospace. Enfin, du moins, c'est la même période. Dis-lui oui.
Dis-lui oui.
J'adore.
Oh, dis-lui oui.
J'adore.
Oui.
Parce que ça, j'ai redécouvert, dis-lui oui. Ça vient d'où, dis-lui oui?
Ah bah, on a tous connu un peu ça. C'est la fille qui plaque un copain. Et,
ouais.
Et on se dit, ça serait tellement plus facile si vous vous remettiez ensemble, sans déconner. Quand t'es justement dans ce moment entre les deux, là, c'est vraiment très difficile à vivre.
Ouais.
Où t'essayes de maintenir, en sachant que ça va être de plus en plus difficile à maintenir les deux contacts.
Mm-hmm.
Et donc, tout le monde souhaite un peu secrètement qu'ils se remettent ensemble. Et ça me parle. Et Muriel, d'ailleurs, un personnage que j'ai inventé, m'a suivi sur pas mal d'autres chansons.
Cette Muriel qui arrive sans arrêt. C'est quoi? C'est un fantasme? C'est un mythe? C'est qui? C'est ta femme? C'est ta copine? C'est ta sœur?
Voilà, c'est un peu tout ça.
Parce qu'avec Quentin, il m'a dit, mais cette Muriel, c'est qui? D'un seul coup, on se posait vraiment la question.
Pour moi, c'était vraiment la fille de mon âge, un peu de ma classe moyenne comme moi, enfin, qui, avec un nom qu'on connaît tous, une Muriel, mais. Mmh. Et qui incarne ça, tout ce que tu viens de dire, justement, la copine, next door.
Le Jiminy Cricket, quoi, quelque
exactement.
Part. Il est sur ton épaule et il
exactement,
est là.
Exactement, exactement. Et je pense souvent à la Muriel en question en tant que, qu'auditrice, quoi. J'imagine un peu comme ça.
Oh là, tu pourrais nous trouver une Muriel, s'il te plaît, pour jouer. Ce serait extraordinaire. Alors, dans le côté spectacle, ça continue. Là, on est en 2004 avec Madame Édouard, la bande originale du film. Et puis, il y a un hommage qui est quand même assez bouleversant et touchant pour nous, les auditeurs et acteurs de Nostalgie. C'est Mariti et Gilbert Carpentier.
Mariti et Gilbert Carpentier.
Grand hommage.
Oui.
Alors là, il y a plein de Michel. Alors, il y a des Michel partout. On en a, voilà. On en a reçu ici. On va en recevoir bientôt. On a reçu Michel Polnareff. On va recevoir très bientôt Michel Jonas. On a reçu ici Michel Fugain. On essaye de recevoir tous les Michel. Malheureusement, Michel Delpech, c'est trop tard. Michel Berger, c'est trop tard. Mais il y a aussi un Michel Le Forestier qui, en fait, ne s'appelle pas totalement Michel. Ou alors, vraiment, c'était une fin de soirée.
Exactement. Je crois que Maxime l'a bien pris.
Mais oui.
Parce qu'il continue à me parler. Oui. Et j'ai pas mis, Michel Sardou, parce qu'à l'époque, on m'avait quasiment interdit de le mettre.
Trop dangereux?
Ouais, et je regrette infiniment.
Ah, mais c'est pas possible, mais ça te ressemble pas du tout.
Mais oui, mais donc je regrette vraiment infiniment.
Tu t'es laissé avoir par tous ces gens qui sont assis là?
Exactement.
Non!
Exactement. Alors, c'est pas eux, hein, je le précise.
Oui, bah oui, depuis, tu les as quittés.
Oui, exactement. Bah,
quand t'as réalisé que finalement, Michel Sardou, ça faisait partie des balles populaires.
Tu sais, quand tu débutes, tu te laisses un peu intoxiquer, tu comprends pas trop, et je regrette beaucoup. Donc, j'ai eu l'occasion de le dire à Michel Sardou, à quel point je le respecte.
Oui, parce que les balles populaires, c'est lui, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière,
oui,
tourne bien, c'est toi ça.
Et moi, j'ai toujours adoré ça, cette chanson, et d'ailleurs, dans cette lignée de chansons françaises, avec le côté franchouillard que j'admets, moi, qui me plaît bien. Et même à un moment, j'avais eu, au début, c'était dans Le Monde.
Un article
où la dame me comparait à Michel Sardou. Alors moi, j'étais hyper content.
C'est d'une fierté, alors qu'elle devait te désinguer total.
Mais ouais, c'est les copains attachés de presse, ils ont dit, mais tu sais, c'est pas un compliment.
C'est
et moi, ça me faisait trop plaisir, tu vois.
Ah ouais, d'un seul coup, je suis dans Le Monde. Et t'en prenais plein la tête, c'est genre, bah voilà, c'est Michel Benabar, en fait.
Exactement.
Ah oui, ok, je n'avais pas la référence du Monde, c'est assez sympa. Et puis voilà, arrive le dîner comme on en parlait, et ça c'était un grand bonheur. Et puis, il y a une rencontre quand même assez forte, c'est celle d'un autre Michel, Michel Delpech, chez Lorette.
Michel, ça a été un coup de cœur, il manque beaucoup, familial d'ailleurs, avec sa famille, sa femme, la mienne, nos gosses. C'est un journaliste du Parisien qui m'a demandé un jour, qui voudrais-tu rencontrer comme chanteur? J'ai dit Michel Delpech.
C'était pas le mec du Monde.
Non, c'était pas la dame du Monde.
La dame du Monde. Ah, pardon. Tu vois, ça, c'est très élégant. Figurez-vous que la dame de Monde m'a écrit un article très mondain.
Ou genre, vous me comparez à Michel Sardou, quand même.
D'accord. Donc là, c'était Le Parisien, on est dans la proximité, et Michel Delpech, alors.
Et Michel Delpech, on s'est vu, alors moi, j'étais vraiment admiratif de Michel Delpech, et encore une fois, de toute cette chanson dite de qualité, cette belle variété française,
qui sont vraiment des
artistes qui racontent des trucs, ouais. Qui racontent vraiment des trucs, comme Beko, comme Serge Lama. Moi, je suis fan de toute cette génération-là, qui raconte beaucoup de choses, mais sans jamais avoir abdiqué sur le côté populaire et sur le côté, justement, divertissant. C'est aussi le but des choses.
Les vraies histoires du vécu, quoi.
Exactement. Et avec cette envie de toucher les gens. Qui, d'ailleurs, ce qui incarne la chanson populaire elle-même, c'est essayer de réduire le nombre d'intermédiaires entre toi et la personne qui va t'écouter. Et eux, ils ont, c'est pour ça qu'ils sont aussi fait attaquer, d'ailleurs. Et Michel, ça a été un modèle, un mentor et un ami.
Qui est-ce qui s'est fait attaquer, pardon, excuse-moi,
j'ai pas compris. Toutes ces générations-là sont pas mal fait des...
Trop populaires.
Oui, parce que, comme si d'ailleurs on pouvait dire que populaire était quelque chose, était critiquable.
Oui.
Ce qui est quand même curieux, quoi.
Ah oui, c'est même très très curieux. Là où on peut plus du tout te critiquer, c'est que je pense que c'est en 2008 à peu près que sort L'Effet Papillon, et là, je trouve qu'il y a plus de débat.
Petite cause, grande conséquence.
Non, c'est l'histoire de ta vie, ça, non?
Oui, ça, j'y crois vraiment à fond. Alors, des fois, malheureusement, négativement, mais cet effet papillon, et puis le fait de le savoir aussi, nous, que les actes ont des conséquences, même si, évidemment, aucun d'entre nous n'est un saint, mais je suis parfois frappé par le besoin de certains de l'inconséquence de certains et de certaines. Ça me frappe. Je le suis aussi moi-même, mais j'essaye de me corriger. Je veux dire, c'est et l'effet papillon, c'est vraiment ça. Bah oui, si c'est un peu ce qu'on apprend à nos gosses. Hein. Si tu manges sous le pot de Nutella, tu vas être malade. Quoi.
C'est ce que t'appelles l'inconséquence.
Oui, la conséquence. Il y a des gens qui ont l'impression que ça n'aura pas de suite.
Ouais.
Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qui, la façon dont ils se comportent. Et encore une fois, moi, ça m'arrive de mal me comporter, hein, mais je sais qu'il y a des conséquences qui sont méritées.
Bien sûr. Et donc, il faut assumer le service après-vente du.
Exactement, exactement.
Et j'ai bien compris. Non, mais c'est bien cette lucidité que tu as. Et puis, alors après, d'un seul coup, tu rebondis sur un politiquement correct.
Ouais.
Là, c'est carrément l'envers du décor, alors.
Oui, je dis, et moi, je t'emmerde. Donc
oui, c'est ça.
J'ai fait de mieux. Et ça a été très compliqué, cette chanson. Parce que c'était un peu un gag, en fait, quand on l'écoute, elle est assez marrante.
Il y en a qui le prennent au premier degré, parce que le deuxième degré, et toi, te connaissant quand même pas mal, cette auto-dérision dont je parlais en introduisant cette interview, il y en a d'autres qui sont carrément au premier degré et qui vont pas du tout chercher plus loin, quoi.
Voilà, et ça, ça a débuté une complication avec les médias, enfin avec la presse notamment, parce que tout le monde avait un peu compris de quoi je parlais, puis surtout à l'intérieur, c'est ça qui avait vexé pas mal de fous rebelles, comme il y en a pas mal dans ce métier. C'est cette envie aussi de dire, bah oui, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis politiquement correct et je t'emmerde. Tu vois, c'était aussi une façon de rappeler des valeurs avec cette période où il fallait être politiquement incorrect.
Ouais.
Et comme avait dit Charb, un grand ami qui a été assassiné à Charlie.
Bien sûr.
Et il m'a dit, bah ouais, enfin, politiquement incorrect, c'est Hitler, c'est Goebbels, c'est dégueulasse, ouais. C'est bien d'être politiquement correct, quoi, d'essayer d'aimer son voisin, de dire, de dire bonjour, au revoir.
Ce qui a dû les frustrer, c'était, ou les toucher, c'était « et je t'emmerde ».«
Et je t'emmerde ». C'est pas le truc le plus malin que j'ai fait de ma
vie. Voilà.
Mais
il faut y aller un petit peu plus avec délicatesse et comme dirait l'autre, doigté.
Exactement.
Mais bien évidemment, je l'ai bien compris. Alors ça continue. Alors moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est les râteaux. Mais les râteaux, on en a pris.
Oh là là, c'est autobiographique malheureusement.
Ah ouais. Et ta femme, quand elle a vu quand même que tu sortais les râteaux en 2011, elle t'en a parlé ou pas?
Non, parce que tu sais, ma femme s'intéresse qu'à la SACEM.
Ah pardon, excuse-moi, je ne savais pas.
Donc
on
peu importe ce que je chante, tu vois,
tu es un rustre. Alors là, tu es la plus douce des femmes. Voilà, voilà. Alors on continue évidemment, inspiré de faits réels, Paris by Night. Et puis après, il y a quelque chose qui est bien, que j'aime bien et qui me touche et qui nous touche, toi et moi. On se retrouve pas n'importe où, on se retrouve chez les Corses.
C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez,
là, c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur, et toi et
oui.
Moi, parce que il est vrai que la Corse, on l'a dans nos cœurs et dans notre cœur, et puis en plus avec Renault. Alors là, tu estampilles carrément la marque Benabar, quoi.
Ah oui, ça a été une grande fierté, mais surtout un grand, une grande émotion de pouvoir chanter avec Renaud. En plus, à l'époque, il faisait pas du tout de duo. Et c'est d'ailleurs c'est Jean-Paul Rouff qui a fait un peu l'intermédiaire. Et parce que Renaud hésitait à chanter. On est très amis avec Renaud, mais il hésitait à chanter tout simplement. Et ces deux copains corses, ils nous ont rapprochés avec Renaud parce qu'ils avaient un restaurant dans le Luberon où je passe une partie de ma vie, et Philippe et Martial. Donc ils ont compté pour moi doublement ces fameux Corses de la chanson.
La rencontre avec Renaud à la toute base, elle se passe comment?
Pour un journal aussi, pour Rock'n'Folk, je crois.
Ouais.
Et on s'était rencontrés à la Closerie.
À la folle époque de Manœuvre, Philippe Manœuvre ou
je sais plus, en tout cas c'était pas lui qui m'avait interviewé.
Donc la Closerie des Lilas, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est dans le 15e arrondissement et c'est le rendez-vous effectivement où se donnent depuis des lustres et des lustres des bons potes qui se croisent, se recroisent,
voilà.
Avec une mentalité un peu à la cool, baba, et on aime bien boire des coups.
Voilà, ce côté un peu à l'ancienne.
Ouais.
Voilà, mais moi j'ai toujours cultivé ce truc-là, la table, les copains, les engueulades, les rigolades, les bouteilles de vin qu'on recommande alors qu'on devrait s'arrêter. Enfin, moi c'est quelque chose qui fait partie de ma vie.
Ouais. Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie
avec Jean-Luc Reichmann tous les vendredis soirs 19h-20h et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.